Lors de la lecture de la paracha Vayechi, à l'ouverture du Sefer Torah, on peut constater que le premier mot de la section suit immédiatement les derniers mots de la section précédente. Vayechi commence la nouvelle section et il est précédé par deux autres mots, Vayirbu, séparés par un très court espace. Il est donc à la suite du texte précédent, de la paracha précédente, sans changement de ligne, sans saut de ligne blanche, sans même un espace important entre le premier et le dernier mot des deux parachas. Il est donc cet espace réduit au minimum, c'est-à-dire un espace tout juste nécessaire pour écrire deux lettres. Sachant que l'espace nécessaire pour écrire une lettre, c'est l'espace qui sépare des mots. Donc là, on est vraiment dans un espace minimum, juste l'espace servant à séparer deux lettres. Ce genre de séparation entre deux sections hebdomadaires est donc un cas unique, c'est un cas unique dans toute la Torah. Il a évidemment du sens, puisqu'on sait que tout a du sens dans la Torah. Et avant de réfléchir au sens, réfléchissons au procédé d'espacement entre les sections hebdomadaires de la Torah. Voyons quels sont les différents types d'espacement. Sans entrer dans les détails, on ne fait pas un cours pour être sophère, mais il y a plusieurs types de changements de parasha. Il y a d'abord le changement de ligne. On termine un paragraphe et on va à la ligne suivante. Le sopher écrit à la ligne suivante. On parle là de paracha ouverte. Au temps des machines à écrire, on aurait dit retour chariot, pour les plus anciens d'entre vous. Dans certains livres imprimés, ce changement de ligne est matérialisé par la lettre P pour Petouha, qui veut donc dire ouverte. La paracha peut aussi commencer à l'extrémité de la ligne où se termine la paracha précédente. Ainsi, une même ligne comporte la fin de la paracha précédente et, après un espace nécessaire au moins pour écrire deux mots, eh bien, il y a le début de la paracha précédente. On a dans ce cas-là ce que l'on appelle une paracha fermée, et dans certains livres imprimés, cela est matérialisé par la lettre Samach pour Stouma, Setouma fermée. Un cas extrême de séparation se trouve, extrême et unique, se trouve précisément avec notre paracha Vayehi. Puisque l'espace de séparation n'est plus de deux mots, il est réduit à deux lettres. Enfin, il y a le cas de séparation entre deux parachas, dont l'une termine un livre de la Torah et la suivante commence un nouveau livre de la Torah. Dans ce cas, le sopher saute quatre lignes. Ainsi, le début de Vayechi commence avec le minimum de moyens. Il y a une stouma extrême, une fermeture extrême, puisque la fermeture concerne même le cas d'une séparation avec l'espace de deux mots. Là, on est dans l'espace de deux lettres. C'est un cas tout à fait extrême de fermeture et il y a un rapport avec un silence. Il y a une fermeture. Il y a une fermeture que l'on pourra relier à un autre silence qui, entre guillemets, s'entend très fort dans cette Torah, dans cette paracha, c'est le silence de Yaakov alors qu'il avait annoncé qu'il allait dévoiler des informations importantes sur la fin, sur la période de la venue du Messie. On est donc dans une réflexion générale sur les intervalles dans la Torah. Et ces intervalles entre parachas ne sont pas les seuls espaces sans signes dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, vous avez de nombreux espaces sans signes. C'est notamment ce dont on vient de parler à l'instant, mais il y a également les marges. Les marges, le bord, je veux dire le bord, l'espace entre le bord du Sefer Torah et le début de la colonne de texte, en haut ou sur le en bas ou sur le côté droit et côté gauche. Eh bien, dans la Torah, même les espaces sans signes, c'est-à-dire sans lettres écrites, sont importants. La loi rabbinique précise même des règles relatives aux marges et celles relatives aux espaces, justement, que l'on vient d'étudier à l'instant, séparant les parachas. Quant aux marges, la question se pose, que se passe-t-il si elles ne sont pas parfaitement respectées, les règles relatives aux marges? Acquitte-t-on ou pas la communauté par une lecture publique? Accomplit-on la mitzvah de lecture de la Torah ou bien d'audition de la Torah lue par un sofer dans le Sefer Torah, dans ce Sefer Torah qui n'aurait pas des marges conformes? Eh bien, le Shulchan Aruch précise à ce propos que oui, on pourra tout de même acquitter la communauté par la lecture publique et accomplir la mitzvah. Les Amoraïm, les maîtres du temps de la rédaction de la Guémara, ont débattu aussi de la question des marges du Sefer. Ces marges, donc ces espaces sans lettres, sans mots, doit-on les considérer comme un livre ou non? Prenons un cas. Il y a un Sefer Torah dont, pour une raison quelconque, les marges sont intactes, mais les lettres ont été effacées. Alors, c'est un Sefer Torah assez étrange, où l'on a des marges impeccables, mais le texte a disparu, effacé, en tout cas, il n'est plus conforme. Doit-on sauver un tel Sefer Torah en cas d'incendie? Eh bien, vous voyez que la question se pose au niveau halakhique. Et une Mishnah enseigne les blancs d'en haut et les blancs d'en bas, c'est-à-dire les marges, les blancs entre les sections et les colonnes, au début et à la fin du livre, souillent les mains, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de kedusha considérable dans les marges elles-mêmes. Elles ont un niveau de sainteté considérable, même si les lettres même du Sefer Torah ont été effacées. Donc, dans ce texte, tout a du sens, y compris les espaces blancs. Eh bien, ça nous fait penser à un principe de base de l'informatique actuelle, en tout cas, et de la théorie de l'information, le non-passage ou le passage de courant électrique, ce qui constitue des unités d'information. L'information est encodée à partir d'une base qui est tout simplement une suite de 0 ou une suite de 1. Et à partir de ce langage du 0 ou du 1, on construit des mots, on construit des commandes à l'ordinateur. Dans Vayehi, ce cas extrême de fermeture physique de l'écriture a une correspondance forte dans une certaine fermeture symbolique. Qu'est-ce que ça signifie? À ce propos, Rabbi Yohanan a avancé un jeu de mots. Il a lu Avon Gilayon, c'est-à-dire une faute au niveau des marges. Et il a lu le mot Evangelion, faisant allusion à la prétention de faux messies à fermer la dynamique messianique. Cette prétention des faux messies à fermer la dynamique messianique a pour conséquence d'une faute au niveau des marges, de détruire la parole de marge, et en conséquence de fermer la lecture infinie de la Torah part du dogme. Le silence imposé à Yaakov dans cette paracha Vayechi, justement, silence imposé par la Shekhinah, par Akadosh Baruch Hu à Yaakov, qui s'apprêtait à dévoiler la quête, la fin de l'histoire, l'arrivée du Mashiach, donc ce silence semble bien correspondre au maintien de l'ouverture de l'histoire juive. Pourquoi l'Akadosh Baruch Hu a-t-il imposé à Yaakov de changer de sujet? En tout cas, de ne pas développer le sujet qu'il avait prévu de développer. Rabbi Shimon Bar Lakish donna l'explication suivante. Yaakov, face à ce silence, sa bouche ne pouvait pas parler ce qu'il avait souhaité dire. Jacob s'est posé la question, un de mes enfants a-t-il un défaut? On sait que ce fut le cas pour Abraham avec Ishmaël, pour Yitzhak avec Esaü. Et donc, Yaakov s'est demandé s'il se trouvait dans la position de son grand-père ou de son père, y a-t-il peut-être un défaut dans sa descendance? Mais alors, ses fils l'ont rassuré. Et ils ont dit, Shema Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un, unique. Ce qui signifiait, il n'y a qu'un seul Dieu dans notre cœur, tout comme dans le tien. Jacob alors a repris la parole, disant la phrase que nous faisons, Baruch Shem Kevod Malchoto, Laolam Vaed, béni soit le nom de la gloire de son règne à tout jamais. Cela a conduit les rabbins à se demander comment dire précisément le schéma. En effet, dans la Torah, dans Devarim, Moshe fait suivre la phrase du schéma par Ve'ahavta, sans phrase intermédiaire. Donc, nous n'avons pas dans le Devarim cette phrase intermédiaire, Baruch Shem Kevod, etc., avant Ve'ahavta. Alors, comment concrètement faire? Devons-nous agir comme Yaakov ou devons-nous agir comme Moshe? La réponse de nos rabbanim, c'est qu'il faut dire la phrase intercalaire comme Yaakov, mais à voix basse, sauf exception bien sûr, notamment le jour de Kippour. Et c'est Rabbi Abaou qui a dit que les maîtres avaient décidé que l'on prononcera cette formule à voix haute pour couper court aux rumeurs que pourraient répandre les hérétiques. Et dans une ville, une académie de Babylonie, à Néardéa, où il n'y avait pas d'hérétiques jusqu'à l'époque de la Guémara, on l'a prononcée à voix basse. Bien, le Midrash complète cette explication. Jacob a vu que dans les enfants, dans le nom de ses enfants, ne figuraient pas les lettres het et tet. Et donc, il n'y avait pas de het, c'est-à-dire de faute, d'infraction chez ses enfants. Notons que dans les téphilines, dans la téphila de la tête, il y a quatre subdivisions et quatre parchemins, quatre textes différents. Alors que dans la téphila du bras, il n'y a qu'une seule case et un seul morceau de parchemin. Cela peut se comprendre comme suit. Dans la religion juive, la diversité de pensées, la diversité d'interprétations, de commentaires est permise. Il n'y a pas de dogmatisme. Si l'action respecte les règles halakhiques, il n'y a pas de problème. On peut penser et interpréter de différentes manières. Mais cette richesse de la pensée est différente de l'unité de l'action. Dans l'action, dans la pratique des mitzvot, il n'y a plus diversité, mais application de la règle. On a vu que les deux espaces qui précèdent le mot vayehi correspondent à une extrême fermeture. Or, vayehi précède les parachas du livre de Shemot, où, comme l'explique Rashi, après la mort de Yaakov, les yeux et le cœur d'Israël ont été fermés par les souffrances de l'esclavage. C'est le début de l'asservissement des enfants d'Israël. Commence alors l'histoire des enfants d'Israël devenus une nation. Commence alors une histoire tendue vers la venue du Mashiach, qu'il vienne bientôt et de nos jours. Amen.